Vous écoutez RTL.
RTL, il est presque 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
À la télévision, ce soir, France 2 diffuse le documentaire de Serge Moati, Adieu Le Pen. Jérôme Chapuis du service politique de RTL nous dira dans un instant ce qu'il faut en retenir. Assurément, quelques phrases.
En politique, quand il s'agit de grandes masses, il faut faire des choses claires, simples. Le deuxième degré, les gens ne comprennent pas. Il y a un proverbe très grossier, il dit « Pine qui bande n'a pas de conscience ».
De son côté, Isabelle Morini-Bosque choisit la finale du jeu Coups humains sur M6, qui, fort de son succès, est exceptionnellement diffusée à 20h50. Et puis, nous vous offrirons au 32-10 des exemplaires du livre de Stéphane Bern, Secrets d'histoire, c'est le 5e volume. Et ce soir, sur France 2, Stéphane nous livrera les secrets d'Anne de Bretagne. Marie-Sabine Roget, la romancière, auteure de La tête en friche ou encore de Bon rétablissement, adapté au cinéma par le cinéaste Jean Becker. Bernard Lehu l'a rencontrée à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, 36 chandelles.
Tous mes romans partent de sujets graves, toujours. Mais j'essaye de les détourner, soit vers la tendresse, soit vers l'insolence, soit faire quelque chose avec lequel les gens vont pouvoir sourire, peut-être même rire. J'aime bien ce côté-là, un peu potache peut-être aussi, mais j'aime bien ça.
Et puis dans la rubrique « Vous ne le connaissez pas encore », Monique Younes nous présentera Vincent Dedienne, nouvel humoriste prometteur. Son premier one-man show s'appelle « S'il se passe quelque chose ».
Je suis célibataire, plutôt homosexuel, ce qui ne m'empêche pas d'être viril et de gifler des jeunes femmes. S'il y a des malvoyants dans la salle, qu'ils sachent que physiquement je suis plutôt moyen, corpulence moyenne, pas spectaculairement musclé, ni joli ni pas joli. S'il y a des beaux garçons dans la salle, je rappelle que je suis célibataire, plutôt homosexuel, ce qui ne m'empêche pas d'être viril, de gifler des jeunes femmes et d'être joignable au 06 10 71.
Non, 66, il faut pas 71. Dire
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
4 concerts à guichet fermé au Zénith de Paris. Son dernier album Girl s'est écoulé à 200 000 exemplaires en France. Un single Happy vendu à 10 millions de personnes dans le monde. Pharrell Williams enflamme la planète. Jacques Serret, vous étiez hier soir à son concert au Zénith de Paris. Alors décrivez-nous ce phénomène.
Eh bien c'est simple, Pharrell Williams, c'est de la musique qui donne envie de danser. Et peu importe l'âge, à la sortie du concert, toutes les générations sont présentes. On y vient en famille pour Samir, fan absolu. De toute façon, Pharrell est universel.
Vous voyez quelqu'un au bout de la rue, et peu importe les âges, et peu importe les gens même qui s'écoutent ou pas de la musique, vous leur dites, vous connaissez Pharrell Williams, ou Yappy, ou Get Lucky avec les Daft Punk, ils vont dire, j'ai entendu parler, ils connaissent.
Petits et grands, tout le monde y trouve son compte, à commencer par Lynn, tout juste 12 ans.
Les danseuses, elles dansaient trop bien. J'adore ses chansons, j'aime bien son style et aussi ses chapeaux. J'adore son imagination, c'était trop bien.
Et alors dans la salle, quelle est l'ambiance? Parce que pas facile de faire danser toutes ces générations en même temps. Hein,
oui, mais la musique de Pharrell est contagieuse, elle donne la pêche, l'atmosphère est électrique. Au bout du deuxième titre, tout le monde est debout en train de danser devant son fauteuil et pas forcément les plus jeunes. Pascal, 68 ans, est venu avec plusieurs amis du même âge. Elle est ressortie totalement sous le charme de la musique.
Bah, elle est très entraînante, elle est musicale. Et puis bon, je trouve qu'il y a un public fabuleux, donc c'est vachement bien.
L'ambiance?
Ah bah, très chaud.
Un public surchauffé, de la musique entraînante. C'est quoi véritablement le style Pharrell Williams?
Le maître mot, c'est le partage des musiques tranquilles, fraîches, joyeuses. Sur scène, Pharrell est décontracté en jean, t-shirt, sur la tête son traditionnel chapeau. Et pendant 1h20 de concert, il n'oublie jamais son public. Angelina a même été conviée à danser à ses côtés.
J'ai regardé Pharrell dans les yeux, je lui ai fait un clin d'œil et il m'a montré du doigt. Du coup, ensuite les vigiles sont venus me chercher et ils m'ont fait escalader la barrière et puis je suis montée sur scène. Je reviens toujours pas, c'était génial. Vraiment, ils partagent, c'était un concert énormissime, vraiment.
Le partage de la bonne humeur, c'est ça la clé du phénomène Pharrell Williams.
C'est une musique qui donne envie de bouger, que ça soit en soirée ou même dans sa voiture, voilà, c'est quelque chose d'entraînant.
Ça donne la pêche. Voilà, je trouve que ça donne la pêche.
C'est voilà. Parfait pour commencer la journée.
Parfait pour commencer la journée, pour être happy. Allez, on en profite et on prolonge le plaisir.
Incroyable, ça donne le sourire. On ne sait pas pourquoi cette musique. Ça fait 10 000 fois qu'on l'entend et ça fait beaucoup de bien. Merci beaucoup Jacques Serret de nous avoir emmené dans les coulisses de ce grand concert de Pharrell Williams à Paris. Dans un instant, on parle télévision.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Bonjour.
jamais vu.
Ah, mais ça débat dans ce studio, c'est incroyable. Je peux vous dire que ça va débattre encore ce soir, parce qu'on va commencer par discuter du décortiquage d'un document consacré à Serge Moati, à Jean-Marie Le Pen, et qui est diffusé sur France 2. Je vous ai dit tout à l'heure France 3, excusez-moi, c'est bien sur France 2. Isabelle.
Oui, le très très socialiste ex-conseiller de François Mitterrand, Serge Moati, si depuis 25 ans, le pas du tout socialiste Jean-Marie Le Pen, mais comme le premier connaît son affaire, il sait dans ce document capter les temps forts, par exemple le visage sidéré de Jean-Marie Le Pen apprenant en 2002 qu'il est au second tour. Mais je passe la parole à Jérôme Chapuis, autrement plus compétent que moi pour discuter du documentaire de Serge Moati.
Ah ouais, ça s'appelle Adieu Le Pen, mais alors c'est moins un adieu que l'histoire d'un héritage, d'une transition. C'est l'histoire de la relation entre le père et la fille depuis que Marine Le Pen a pris la suite. Et alors ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'effectivement Serge Moati les suit absolument partout, dans les bureaux, dans les coulisses des meetings. Et alors on voit Jean-Marie Le Pen encombrant, provocateur, impulsif aussi, comme par exemple lorsqu'il regarde une interview à la télé et qu'un journaliste malmène sa fille.
J'attends de me le rencontrer en direct, monsieur. Il met son caleçon sur la tête. Et je veux savoir son nom, monsieur. Je vais vous le cartonner.
Qu'est-ce qu'on apprend sur leurs points communs ou leurs différences?
La grande différence, c'est que Marine Le Pen vise le pouvoir alors que son père n'en voulait pas. On en a la confirmation avec cette confidence inédite. C'est le vertige de Jean-Marie Le Pen. Isabelle, vous en parliez un instant. Voici le son, l'extrait. C'est le soir où il se qualifie pour le deuxième tour de la présidentielle.
Le soir du 21 avril, je m'angoisse de la suite. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait dans 15 jours si je suis élu président de la République? Qui va-t-on nommer comme Premier ministre, etc., etc.
Voilà, Jean-Marie Le Pen qui conseille aussi sa fille sur la forme. Tu devrais aller voir un orthophoniste. Il la critique sur le fond, trop subtil sur le mariage homosexuel. C'est le proverbe imagé que vous avez entendu dans les titres tout à l'heure. J'y reviens pas.
Et puis, il y a des invités surprises.
Oui, on connaît, vous savez, la proximité de certaines stars avec Jean-Marie Le Pen. Mais alors, de là entendre ça, c'est le soir des dernières municipales. Coup de fil sur son portable.
Oui. Salut Alain, tu vas bien? Merci, je t'embrasse. Salut. Au revoir. C'est Alain Delon. Mais je veux pas t'emmerder plus longtemps. Je t'embrasse. Salut.
Voilà, Alain Delon qui passe un petit coup de fil le soir d'une victoire électorale du Front National. Ça peut faire sourire. On sourit moins quand le vieil homme dérape encore et encore jusqu'à rire de ses propres dérapages et de ses fréquentations.
Alors quand les gens me disent, ah ben oui, mais vous avez eu machin, c'est bien tel, du FNSS. Oui, en effet, votre épicier peut-être aussi un ancien FNSS. Ça ne vous empêchera pas d'acheter des macaronis chez lui.
Voilà, Jean-Marie Le Pen tel qu'en lui-même. C'est pour ça qu'au bout du compte, on est souvent un peu mal à l'aise. C'est lié sans doute à la relation ambivalente que le réalisateur Serge Moati entretient avec son sujet. C'est une forme, vous savez, de fascination-répulsion. On en a beaucoup parlé. C'est aussi ça, quand même, qui permet à Moati de recueillir des confidences intimes de Jean-Marie Le Pen, comme on les a jamais entendues, sur la vie et sur la mort.
Comment vous aimeriez mourir?
Je vous dirais comme les comédiens, de recevoir une balle en plein cœur tirée par un fanatique, adversaire de mes idées. Là, je resterais dans le dictionnaire Larousse.
Adieu Le Pen, le documentaire passe donc ce soir à 22h40 sur France 2, avec visiblement des choses tout à fait inattendues. Merci beaucoup Jérôme Chapuis. Voilà, ce petit jingle nous indique les audiences.
Eh bien oui, et deux émissions populaires se partagent, un gros bassin de téléspectateurs, plus de 10 millions. Une famille formidable, du coup, n'en a que 5 800 000 sur TF1, 24% du public sur la 1. Et Castle, 5 500 000 sur la 2, 21% du public global. Vous voyez, quasiment 11 millions à L2. Et alors, en troisième position, eh bien c'est Extant, attendez, j'ajuste mes yeux.
Oui, ajustez donc.
Extant sur M6, 2 600 000 téléspectateurs, seulement 10% du public, juste devant Elles étaient en guerre, 14-18 sur la 3, 2 300 000 à la louche et 9% du public sur la 3. Ça peut vous sembler faible, c'est beaucoup plus que la moyenne de la case. Et côté TNT...
J'en étais, j'ai suivi vos conseils, c'était un formidable documentaire.
Je vous en remercie. Et alors côté TNT, c'est W9 qui rassemble 1 200 000 personnes devant Killer Elite, un film.
On poursuit donc avec vous, Isabelle, pour voir les autres programmes, par exemple les secrets d'histoire, enfin le secret d'histoire qui précède Adieu Le Pen.
Ben oui, c'est l'un de mes préférés, consacré à une autre bretonne, Anne de Bretagne, bien qu'un quart bretonne seulement. Hein. Une lutteuse qui s'oppose à Louis XI, lutte pour son duché breton, mais reste dans l'histoire essentiellement pour avoir été deux fois reine de France. D'abord épouse de Charles VIII, vous savez, c'est le roi qui a perdu la tête en se la cognant sur une poutre. Puis de son cousin Louis XII, le roi préféré de Francis Perrin et l'un de mes préférés à moi. Pour Charles VIII, elle a, d'après les historiens, eu bien du mérite.
Pour faire très vite, on pourrait dire que c'est à la fois un fils de vieux et une fin de race.
Il n'est pas très beau garçon, il était flanqué, il a une taille moyenne.
Les yeux anormalement globuleux, le nez anormalement tombant et long. En fait, oui, il est monstrueux.
Et en plus, il a les genoux cagneux.
Il est gauche, maladroit, timide.
Pas forcément très brillant, pas forcément très cultivé.
Il ne parle même pas latin, alors que c'est la langue internationale de l'époque.
Mais après avoir couché avec son mari, Anne de Bretagne, on redemande.
Voilà, et comme on dit, elle a bien
on s'interroge sur elle, là, pour le coup, oui.
Eh bien, comme on dit, elle est ardente au déduit, un peu par nature, beaucoup par intérêt, et elle lui a donné un enfant par an. Hein, ils ont quand même vécu un certain nombre d'années, dont 4 seulement ont survécu avec Louis XII. Très beau, très bienveillant, le conditionnement fut plus rapide et ils ont été toujours fidèles l'un à l'autre. Mais si je puis me permettre ce détail, comme d'habitude dans Secret d'Histoire, on apprend beaucoup de petites choses sur la vie quotidienne. Sachez par exemple, si je puis me permettre ce détail qui ne manque pas de fondement, qu'elle introduisit à la cour le pot de chambre. Mais c'est faux de dire en revanche qu'elle était culottée.
La culotte n'existait pas. Elle apparaît beaucoup plus tard et encore, il se trouve qu'elle n'est pas portée par toutes les femmes.
Voilà, c'est donc la première sans culotte de l'histoire. On apprend aussi quelques détails sur la langue française au passage.
La nappe a deux épaisseurs. L'une est plus courte pour s'essuyer les doigts. C'est l'ancêtre de notre serviette. Rares sont les assiettes. À la fin du Moyen-Âge, on mange sur des grandes tranches de pain que l'on partage à deux convives. Et voilà comment est né le mot « copain ».
Voilà. Eh bien, moi, ça suffit déjà à ma joie.
Copain, on
et comme il y a beaucoup de détails
pain.
Comme ça, donc 20h45, la 2, un excellent secret d'histoire.
Alors, vous avez aussi beaucoup aimé Cousumain sur M6.
Oui, alors, j'aime le phénomène Cousumain, je ne suis pas du tout du en couture, présenté par l'animatrice chouchou des ménagères de M6, la brésilienne Christina Cordula, qui cumule 3 émissions sur la chaîne Nouveau Loup pour Nouvelle Vie, Les Reines du Shopping à 19h, et donc Cousumain, ce concours de couture pour amateurs. Alors, le succès, franchement, n'était pas garanti. Nous, les médias, disions que c'était un peu trop, et pourtant, il a été si réel que la chaîne propose du coup la finale à 20h50 ce soir, demi-finale et finale. Le nombre de femmes regardant à 19h est en effet passé de 14 à 21%, ce qui la rapproche énormément de TF1. Et ce soir, elle lance d'abord la demi-finale. Écoutez-la pour ne pas perdre le fil.
Vous jouez aujourd'hui pour la finale. Et bien évidemment, Amparo et Julien vont vous donner du fil à retordre. Pour être encore plus difficile, on va changer les habitudes. Voilà, vous allez travailler aujourd'hui.
C'est un jeu de mots au fil à retordre. Et avec ça, le choix musical de l'émission est extrêmement sympa. L'émission ose même les Platters. Only petit détail pour finir, les Reines du Shopping pourraient passer à 19h au lieu de 17h40 pour cause de succès toujours, sans parler d'un test de 2h, sans doute le 24 octobre.
Vous nous avez parlé de Stéphane Bern. On fait justement gagner au 3210 le 5e volume des passionnants secrets d'histoire qu'il publie chez Albin Michel. Mais pour ça, il faut répondre à votre question, Isabelle.
Combien de fois Anne de Bretagne a-t-elle été reine de France? Je précise que justement, Anne de Bretagne est dans ce 5e volume des secrets d'histoire.
L'un des chapitres, oui.
Et que vous nous avez donné la réponse il y a à peu près une quarantaine de secondes.
Enfin, ouais, une petite minute. Mais j'ai voulu être gentille.
Oui, c'est dans votre nature. On se retrouve dans un instant.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
La vie des livres maintenant avec vous, Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour, c'est joli comme expression.
Vous avez rencontré la romancière Marie-Sabine Roger. Elle ne fait pas forcément la une des médias, mais cette discrétion ne l'empêche pas de séduire de très nombreux lecteurs.
Les lecteurs et le cinéma, Yves. Deux de ses romans récents ont été adaptés par Jean Becker. La tête en friche, vous vous souvenez, cette superbe histoire d'amitié d'une vieille dame cultivée, jouée par Gisèle Cazet-Dessus, et d'un jardinier analphabète, Gérard Depardieu. Et puis, Bon Rétablissement, sorti le mois dernier avec Gérard Lanvin, dans le rôle d'un misanthrope qui, le temps d'un séjour à l'hôpital, va se réconcilier avec l'humanité. Deux films dans lesquels, eh bien, on retrouve ce qui fait justement le succès de Marie-Sabine Roger, un habile mélange de générosité, de finesse et d'humour.
Alors justement, est-ce qu'on retrouve ces qualités dans son nouveau roman 36 chandelles publiées aux éditions du Rouergue.
Alors tout à fait, Marie-Sabine Roger n'a rien perdu de sa patte et elle parvient à se renouveler, adepte jusque-là de chroniques bien ancrées dans le réel. Elle signe ici un joli conte pour adultes, Il était une fois... Mortimer, descendant d'une lignée mâle dont l'aîné meurt systématiquement le jour de ses 36 ans. Alors en ce jour d'anniversaire, Mortimer, allongé sur son lit, revêtu de son plus beau costume, attend donc que la malédiction le frappe. Mais voilà, rien ne se passe. Pourquoi ? comment réapprendre à vivre quand on se croyait condamné. Alors ça, je vous laisse le découvrir. Et j'ai demandé à Marie-Sabine Roger d'où lui était venue l'idée très originale de 36 chandelles.
Il y a quelques années de ça, je me rappelle d'un voisin qui nous avait parlé de sa famille en nous disant d'une façon à la fois souriante et un peu inquiète, dans ma famille, les hommes meurent, je ne sais plus, je crois que c'était 45 ou 46 ans, et nous avait dit d'ailleurs, mon anniversaire est dans 2 mois, et ce qui est tragique, c'est qu'en fait, il est décédé 2 mois plus tard. Alors je dis ça avec un demi-sourire, mais en fait, l'histoire est vraiment pathétique, et à l'époque, évidemment, je ne me suis pas dit, c'est un bon sujet de roman, vous pensez bien que j'étais plus bouleversée qu'autre chose, mais en même temps, j'ai beaucoup réfléchi à cette... Voilà, l'idée est restée. Donc, je suis partie vraiment de ça.
Alors, de cette histoire a priori tragique, Marie-Sabine Roger, comme elle le fait tout le temps, tire un roman au message libérateur, secouer le poids de l'hérédité.
Alors en fait, quand j'ai avancé dans l'histoire, je me suis amusée avec cette histoire-là, qui au départ n'était pas drôle, et j'ai poussé au plus absurde, finalement, cette notion d'hérédité familiale, parce que sans parler de l'histoire tragique de ce monsieur, j'ai entendu très souvent autour de moi des gens dire, finalement, dans ma famille, nous avons toujours fait tel métier, nous avons tel type de maladie, et comme si nous arrivions au monde avec une espèce de sac à dos très lourd greffé sur les épaules, où avant même d'avoir fait nos propres choix, quelque part, nous sommes déjà entre des rails. Ces vies qui deviennent des petites vies parce qu'on n'a pas osé rêver suffisamment.
Oser rêver, voilà une très belle morale.
Oui, et puis, alors, et vous apprécierez, comme moi, j'en suis persuadé, la qualité également des seconds rôles de 36 chandelles, là aussi, autre talent de Marie-Sabine Roger, à commencer par Jasmine, qui embrase le cœur de Mortimer.
Pour une fois, c'est peut-être pas mon héros qui est le plus sympathique dans mon roman, parce que quelque part, Mortimer, il est touchant, mais il est un peu étriqué, il est un peu obsessionnel, il est beaucoup dans les chiffres, et on peut le comprendre, avec le destin très lourd qu'il a supporté. Et puis Jasmine, ben, effectivement, c'est une sorte de fée clochette. Elle est tombée de la lune, elle a des activités on ne peut plus étonnantes, beaucoup d'humanité, beaucoup de tendresse, et en même temps, on ne peut pas la saisir. C'est quelqu'un qui est complètement libre d'elle-même, libre d'aimer ou de ne pas aimer, et Mortimer est complètement dépassé par ce personnage. C'est vraiment un symbole d'une femme libre, mais en même temps d'une femme très attentive aux autres.
Courez vraiment, courez rejoindre Jasmine, Mortimer et tous les personnages irrésistibles du réjouissant 36 chandelles, le dernier roman de Marie-Sabine Roger. C'est publié aux éditions Le Rouergue et puis peut-être prochainement un nouveau film, nouvelle adaptation.
C'est bien possible. Bon, y a rien à voir avec Jean Noël, hein, je peux pas m'empêcher de poser la question.
Oui,
vous avez l'air surpris.
Oui, c'est
l'émission de notre
bien sûr.
Voilà. Donc rien à voir avec Jean Noël.
On n'était pas nés,
quand même. La fameuse émission.
Non, il y a que moi, bien sûr. Vous étiez nés à cette époque-là, vous jouiez. Monique Younes.
Oui, Yves Calvi.
S'il se passe quelque chose, est le titre du spectacle que vous avez vu au Petit Héberto à Paris.
Exact.
Il est joué par Vincent De Dienne, je vous remercie. Un comédien que l'on ne connaît pas encore et que vous allez nous présenter. Qui est-il et qu'est-ce qu'il raconte, ce Vincent De Dienne?
Alors, il a 27 ans et il parle de lui. Il prétend modestement, je cite, avoir une beauté à laquelle on s'habitue progressivement. Mais dès la première seconde du spectacle, on est frappé par la nudité intégrale de son corps en tout point superbe, Yves.
Ça commence bien.
Alors, dans la pénombre, rassurez-vous, et au repos, et plus la lumière se fait sur scène, plus Vincent De Dienne s'habille, imaginez-vous.
Déception.
Disons que le spectacle est présenté comme une mise à nu, alors on aurait aimé que le physique laisse place à la parole un peu plus tard.
Je suis né le 2 février 1987 à Mâcon, de parents inconnus. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la mauvaise nouvelle dans la phrase, hein, la chose peut-être un petit peu triste, c'est pas les parents inconnus, c'est pas non plus février 87. Hein. Non, la mauvaise nouvelle dans la phrase, c'est Mâcon. Mâcon, comment vous dire? C'est en Saône-et-Loire, déjà. C'est un peu l'image qu'on se fait, pas de la mort, non, mais de l'agonie.
Moi, je vais défendre la bonne ville de Mâcon, mais oui, j'imagine que vous avez été déçu par la révélation de ses penchants sexuels.
Pas du tout. D'ailleurs, le premier amour de Vincent De Dienne est une femme, et pas n'importe laquelle. C'était l'année de ses 7 ans, écoutez.
Tradition, s'il vous plaît.
Ah, hein, on a passé une bonne soirée, hein. Ah, vraiment, je crois que c'est la première fois qu'on dîne tous ensemble, en plus, hein. Françoise, c'est toi qui as eu l'idée. Bravo, Françoise. Vraiment, c'était super. Faut dire Jeannot, il a mis une ambiance avec ses grimaces. Oh là là, en plus, il fait jamais la même, je sais pas comment il fait. Hein, moi, j'en sais qu'une, mais ça fait 10 ans que je te la fais. Bon, vite fait, parce que c'est toi. Le jour où j'ai compris qu'il y avait des gens qui montaient seuls sur scène pour faire rire et qu'il y en avait d'autres qui s'asseyaient dans la salle pour écouter celui ou celle qui était monté seul sur scène pour faire rire les gens qui s'étaient assis dans la salle pour rire à celui ou celle qui était monté seul sur scène. Waouh ! Je crois bien que c'est ce jour-là qui a décidé de tous les autres. J'allais être comme eux, comme elles.
Alors après Muriel Robin, l'autre passion du jeune Vincent, c'est Alice Sapritch, dont une fameuse apparition à la télé le marquera à jamais.
Je suis une femme seule. Les homosexuels sont des gens charmants, qui sont drôles, qui sont célibataires et qui ont une voiture. Alors, vous comprenez, c'est ça. C'est mon péché mignon. Je n'ai pas de chauffeur. J'ai des amis qui ont des voitures et notamment mes amis homosexuels, ils sont deux. Pendant que l'un garde la voiture, l'autre ouvre la portière. Alors je dois...
Voilà. Ah, c'est bien d'avoir une bonne paire de mots.
Vincent de Dienne pousse l'introspection assez loin en projetant des vidéos de lui enfant en train de jouer la comédie. Il met aussi ses parents à contribution. Il leur fait raconter comment ils l'ont adopté. Rien que ça, Yves, c'est du lourd. Il y a de très très beaux moments dans le spectacle de Vincent de Dienne, mise en scène par François Rollin et produit par Laurent Ruquier. Les meilleurs moments ne sont peut-être pas ceux où il tente de nous faire rire. Il y a un discret hommage à Annie Girardot. Il interprète une vieille actrice qui perd la mémoire. Et là, je vous assure, il vous tire les larmes est émouvant.
Se serait-il trompé de registre ?
Il est trop tôt pour le dire, mais Vincent de Dienne est incontestablement un acteur. Mais en voulant nous montrer tout ce qu'il sait faire, il en fait un peu trop et dans tous les sens. Alors néanmoins, il faut se laisser tenter, ne serait-ce que pour pouvoir dire dans quelques années que vous y étiez la toute première fois. Il s'appelle Vincent de Dienne et il joue du mercredi au dimanche au Théâtre Héberto et c'est à Paris.
Théâtre du Petit Héberto,
À côté du Théâtre Héberto.
Très bien. La question qui vous était posée pour gagner le livre de notre cher Stéphane Bern était: combien de fois Anne de Bretagne a-t-elle été reine de France ? La réponse dans quelques instants sous la haute responsabilité de Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Je suis sûr que vous avez très envie, je connais cette musique, de gagner le cinquième volume des passionnants secrets d'histoire de notre ami Stéphane Bern, publié chez Albin Michel. Stéphane, que nous retrouverons tout à l'heure pour son émission. Mais pour cela, il fallait quand même répondre à une question. La question est la suivante. Combien de fois Anne de Bretagne a-t-elle été reine de France ? Isabelle Morini-Bosque, c'est le moment de votre vie.
Elle a été deux fois reine de France.
Bravo, voilà.
De Charles VIII et Louis XII, mais ça c'est facultatif.
Vous l'aimez bien cette Anne de Bretagne, hein ?
Oui.
Vous connaissez à peu près tout d'elle.
Et pourtant j'adore, c'est surtout la Normandie que j'adore, mais oui, j'aime beaucoup Anne de Bretagne. Première biographie que j'ai lue de ma vie.
Merci.
S'en fout en même temps.
Non, mais si, on est heureux de s'intéresser un peu à votre biographie. Je suis sûr que Julien Courbet s'y intéresse énormément.
Je m'y intéresse, et de près, croyez-moi, évidemment.
Vous êtes en forme, vous, ça va ?
Oui, alors je suis désolé pour hier, parce que je ne vous entendais pas hier. Je sais que vous aviez préparé un petit quelque chose, mais on n'entendait rien, en fait, du salon de l'auto.
C'est un raté que vous voulez.
C'est dommage.
On était plein d'émotions à vouloir saluer cette nouvelle émission que vous présentez avec toutes vos boîtes, quoi, boîtes à chaussures.
Vous rendez compte le nombre de boîtes quand je pense à toutes les fois où ma femme m'a dit il y en a marre de laisser traîner ses boîtes, et maintenant je me retrouve avec 26 boîtes sur un plateau. Merci beaucoup.
C'est une belle émission de radio.
Vous écoutez RTL.